podcast France Culture.
Décembre 1981, la Pologne ne répond plus. Une série podcast de Dominique Prusak, réalisée par Laure-Hélène Planchet.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Quatrième épisode, des morts pour l'histoire.
Les gens sont descendus sur les rues, mais les rues étaient vides.
Jarosław Kurski, étudiant à Gdansk en 1981. Il se souvient du 13 décembre et des jours suivants.
Tout le monde était chez eux, mais on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. On savait qu'à l'aube, les services de police attaquaient la siège de solidarité à Gdańsk. Ils ont pillé le siège. Mais ce dimanche était assez calme. Il n'y a pas de mouvement dans la rue. Mais lundi, je crois, il y avait un blocage tout autour des chantiers navals parce que les ouvriers ont commencé à faire une grève. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens, je ne sais pas, 300, 400, pas plus. Tout le monde avait peur, bien sûr. Le lendemain, un char blindé a forcé l'entrée. Et des chantiers navals, tout le monde était prisonnier. Et la guérilla a éclaté. Et pendant 3 jours, il y a une ligne de front, il y a des masses humaines qui commençaient des attaques, jeter les pierres, jeter tous les objets possibles avec le drapeau national. Et en revanche, la police qui a attaqué en gaz lacrymogène, nous, en rejetant des cocktails de Molotov. En plus, il y a des chars de police et des chars militaires qui ont foncé dans la foule. Il y avait des voitures policières qui étaient renversées, brûlées. Alors c'est une image vraiment la guerre civile, telle qu'on peut s'imaginer, il y a beaucoup de victimes, et c'est vraiment dans ma mémoire un souvenir très très fort. Les ouvriers, les élèves, les étudiants, les pères de famille, c'est une colère humaine, toute la société était bouleversée. Il y avait des slogans « solidarność, solidarność ». Il y avait « Nie ma wolności bez solidarności », »,« Il n'y a pas de liberté sans solidarité ». Il y avait aussi « Zima wasza, wiosna nasza », c'est-à-dire « L'hiver à vous, mais la printemps à nous ». Il y avait une neige et je me souviens qu'il y avait aussi visible, très, très bien visible, les taches de sang sur la neige.
Vous savez, je me sentais un peu comme le mécanicien d'une locomotive qui avance dans une direction donnée et qui se rend compte tout d'un coup que des rails devant lui sont endommagés.
Le général Wojciech Jaruzelski, il revient en 2001 au micro de France Culture sur l'état de guerre.
Il se met donc à freiner de manière violente, tout en étant conscient qu'à la suite de ce freinage, une partie des passagers serait blessée. Une autre partie aurait des contusions. Tous seraient effrayés, mais vivants.
Et
moi, j'ai regardé cette situation justement par les yeux de ces mécaniciens qui, à chaque instant, chaque minute, chaque heure, reçoivent des renseignements sur l'état de ces passagers. Si personne n'était mort, si ces buts suprêmes qui m'accompagnaient pour préserver la Pologne devant une nouvelle effusion importante de sang, est-ce que ce but était en train d'être réalisé? Et je dois vous avouer que chaque jour, je ressentais un sentiment de soulagement quand je voyais que d'un côté, ces victimes étaient peu nombreuses. D'ailleurs, il n'y a eu des victimes mortelles qu'à le 16 décembre, 9 mineurs. Jusqu'à là, il n'y a pas eu de mort. Bien sûr, il y a eu des protestations. Il y a eu un mécontentement des larges couches de la société. Néanmoins, ce n'était pas l'attitude dominante. Et cela, je le ressentais comme un soulagement, que ce n'était pas une guerre contre la nation. Même si certains ne les comprennent pas, ne partagent pas cet avis, que c'était une guerre pour sauver la nation. Mais c'était un sauvetage qui, en même temps, avait suscité des blessures. C'est pourquoi je souligne à plusieurs reprises que c'est un moindre mal.
Je rejette cette idée que
Général Jaruzelski, c'est un sanguinaire qui voulait étouffer les soldats Arnauges dans le sang. Non.
Andrzej Paszkowski, historien.
Il voulait faire cette opération le plus stérile qu'on peut faire. Et il est à peu près gagné. Parce que si on calcule le nombre de chars qui ont flâné dans les rues, comme la démonstration de force, des attaques contre les usines, etc., etc., le nombre de victimes est minime. Bien sûr, Jaruzelski est aussi responsable. Mais ce n'était pas le massacre de masse. C'était une opération politique. Les mineurs de Silésie, c'est la mine de Vouillec. C'est 9 morts. Ce que nous savons jusqu'à maintenant, c'est que le commandant de cet échelon a décidé seul de tirer. Il n'avait pas la permission, ni son supérieur, ni les ministres, ni les Jaruzelski. Il s'est décidé parce qu'il a constaté que la situation est dangereuse pour ses hommes et ils doivent attaquer.
Kasia était enfant quand son père travaillait dans la mine de Vouillec, près de Katowice. Devenue adulte, elle descend pour la première fois dans la mine.
La visite en bas, dans la mine, était très importante pour moi. Je voulais voir comment mon père travaillait, surtout les conditions. Mais les conditions sont horribles. Il fait très chaud et c'est très désagréable. C'était au début de l'état de guerre. Tout a commencé par l'arrestation d'un membre de Solidarność. Les mineurs se sont mis en grève pour exiger sa libération. Maman et ma grand-mère sont aussitôt venues à la mine pour dire à papa qu'il devait quitter les lieux, qu'il devait avant tout penser à sa fille et à sa famille. Mais il a refusé. Il a dit qu'il ne sortirait pas, que c'était sa mine et son affaire, qu'il ne s'enfuirait jamais comme un lâche. Les forces de l'ordre sont arrivées. Elles avaient pour consigne de tirer et de tuer. Au début, personne ne voulait croire qu'ils tiraient à balles réelles. Ce n'est qu'en voyant le sang que les mineurs ont compris. Ils ont fui et on leur a tiré dans le dos. Le lendemain, une délégation de la mine est venue annoncer que papa était mort. Maman a eu un malaise. Elle ne voulait pas y croire. Elle répétait sans arrêt « Où est-il? Quand va-t-il revenir ?»
Les gens disent effectivement que le général Jaruzelski a du sang sur les mains. C'est une métaphore. Elle est un peu absurde au sens littéral puisque c'est pas lui qui tirait, mais il a du sang au sens justement où il donnait des ordres à plusieurs reprises dans l'histoire polonaise.
Georges Mink, sociologue et politologue.
Donc, on peut le dire, il faut trouver un responsable. Et d'habitude, dans les procès historiques, le responsable, c'est celui qui donne l'ordre général.
13 décembre 81, Pologne communiste, le général Jaruzelski au pouvoir décrète la loi martiale.
France Inter, lundi 13 décembre 2008.
27 ans plus tard, Jaruzelski n'est plus à la télévision, mais dans le box des accusés, face au procureur.
Votre honneur, j'accuse le général Wojciech Jaruzelski d'avoir commis un crime communiste et dirigé une association criminelle de gens armés sur tout le territoire polonais.
Bonsoir François Gau.
Bonsoir Bruno.
Correspondant de France Inter à Varsovie, le procès s'est ouvert il y a un mois. Jaruzelski et toute la Pologne replongent dans les années communistes. Dans quel climat se déroulent les audiences ?
27 ans après, ce procès fait un peu anachronique, un peu irréel, et cela se sent. Aujourd'hui, le général Jaruzelski a 85 ans, toujours ses lunettes noires, mais sa silhouette s'est tassée. Alors les Polonais semblent rester indifférents. Certains disent il fallait faire ce procès, voici 20 ans. À présent, Jaruzelski est trop vieux, on ne peut plus le condamner. Et pourtant, pour eux, l'état de guerre a été une très douloureuse épreuve. 90 morts, des milliers de blessés, des chars dans les rues. Bien, la loi martiale était un mal nécessaire. J'ai décidé l'état de guerre pour éviter une catastrophe nationale. pour éviter l'invasion de la Pologne par les troupes soviétiques. Voilà la base de la défense de Jaruzelski. Et le vieil homme plaide non coupable. Il ajoute aussitôt « Je regrette les souffrances des Polonais. Je les comprends et je demande pardon. » Et ses anciens adversaires reconnaissent à la fin des années 80, Waleza et Jaruzelski ont négocié ensemble autour d'une table ronde la transition démocratique de la Pologne.
Le général Jaruzelski a été confronté à des demandes de condamnation en justice et donc un procès qui a démarré dans les années 2000 sous la pression de certaines fractions de la population polonaise qui souhaitaient que justice soit faite.
Georges Mink.
Ce procès contenait plusieurs éléments. Le principal, au début, c'était le rôle du général Jaruzelski lorsqu'il était chef de l'état-major polonais dans les tueries du littoral de 1970, où il y a eu plusieurs dizaines, sinon centaines d'ailleurs, on ne connaît pas exactement les chiffres, d'ouvriers tués. Il a pu échapper à ce procès et ensuite à toutes les autres accusations pour des raisons de santé. Ça a servi au report, en quelque sorte, de ce procès, s'inédier, puisque finalement, il n'y a pas eu de procès. En revanche, il y a eu des manifestations de colère chaque 13 décembre devant la maison où il habitait. Et même en 2010, quelqu'un a jeté un pavé sur sa tête et l'a blessé jusqu'au point qu'il fallait poser des sutures sur son crâne. Mais il était malade, effectivement, il avait plusieurs maladies, il avait un mélanome, le cœur peut-être faible. Voilà, et la partie de la défense a utilisé astucieusement pour qu'il ne soit pas confronté à ces accusations. Mais il a été aussi défendu par une partie de l'ancienne opposition démocratique, justement au titre de grâce qu'on pouvait lui accorder en raison de son rôle dans le démontage du communisme polonais, de l'initiative qu'il a prise de négocier avec l'opposition démocratique le changement de régime, passer de communisme à la démocratie. L'intervention des troupes soviétiques était toujours possible, évidemment, mais les dirigeants communistes de l'époque faisaient leurs calculs. Le morceau Pologne était très difficile à digérer. C'était même impossible dans la mesure où on se rendait compte que toute la nation polonaise serait en état d'insurrection si une armée étrangère intervenait en Pologne. À Moscou, on se rendait bien compte de ce qu'était à ce moment-là le patriotisme polonais, la valeur suprême dans la tête de chaque Polonais et aussi cette tradition de combat, de résistance. Et donc on avait peur en fait de réveiller cela, on préférait agir par les mains polonaises.
Il était absolument impossible pour l'armée rouge d'occuper la Pologne à ce moment-là.
Jean-Yves Potel.
C'était l'histoire de l'Afghanistan, c'était impossible. C'était militairement, techniquement, moralement, politiquement impossible. Ils pouvaient réprimer autrement, ils l'ont fait.
Je crois que les Polonais, comme toutes les nations, aiment les mythes.
Andrzej Paszkowski.
Vercingétorix, ou Napoléonien, ou le général de Gaulle, etc. Les Polonais aussi aiment les mythes. On peut se demander, est-ce que les mythes de Solidarność, il était possible sans l'état de guerre? Parce que, à vrai dire, seulement l'état de guerre crée les Solidarność comme les martyrs. Les Polonais l'aiment des mythes martyrologiques. Et on peut dire que sans l'état de guerre, les mythes de Solidarność n'existera plus.
Le rôle de l'Église pendant la loi martiale et au moment de la sortie de la loi martiale était tout à fait essentiel parce qu'en Pologne, l'Église était la seule institution indépendante qui n'était pas sous la botte des communistes, qui se plaçait dans une sorte de Pologne éternelle et qui voulait d'une certaine façon contribuer à ce que la Pologne se débarrasse de la domination soviétique. Donc lorsque le grand mouvement social est né, l'Église l'a soutenu. Lorsque la loi martiale a été déclarée, l'Église a soutenu les victimes de la loi martiale, notamment en organisant l'aide à la population, aux familles des détenus prisonniers politiques. Et l'Église a été une sorte de garant du pacifisme de la sortie du communisme. Lech Wałęsa dira toujours qu'à chaque négociation avec les communistes, il avait besoin d'avoir avec lui un hiérarque de l'Église pour que ce hiérarque puisse à la fois contrôler et témoigner de la correction des communistes et de leur respect des accords.
Il y a eu et il y a toujours une bataille pour l'image politique de l'état de guerre.
Piotr Bounski, journaliste à Radio France Internationale.
Mais en même temps, c'est ressenti comme une absurdité. C'est ça que j'appelle le côté grotesque de l'état de guerre qu'on a ressenti en Pologne depuis les premiers moments et tout de suite d'ailleurs à l'étranger aussi. D'ailleurs, dans l'expérience personnelle de beaucoup de gens, l'état de guerre était une période de rire, d'humour noir, absurde, extraordinaire. Quand nous écoutons Jaruzelski qui dit que sans l'état de guerre, il n'y aurait pas de table ronde, que sans l'état de guerre, il n'y aurait pas, il le dit presque, de Perestroïka et de Gorbatchev, mais il est bouffon, parce que c'est sans l'échec de l'état de guerre qu'il n'y aurait pas, sans doute, la Perestroïka, etc. Donc, il y a un déplacement des accents qui est de la pure propagande, de la réinvention, à titre personnel pour beaucoup, à titre politique pour les formations qui se trouvent issues de l'ancienne équipe.
Personne n'a obligé le général Jaruzelski à être au parti, être général, introduire l'état de guerre, mettre les gens en prison, tuer des gens.
Martin Fribes, militant et écrivain.
Il pouvait refuser cela. On était déjà dans une phase de communisme plutôt dos. Donc c'est lui qui l'a fait quand même et il faut qu'il en assume la responsabilité. Pour terminer, je voudrais juste citer un sociologue anonyme polonais célèbre qui a écrit sur les murs de Varsovie « Général, l'histoire peut-être un jour t'absoudra, mais moi je t'encule. »
La loi martiale est suspendue le 31 décembre 1982 et définitivement annulée en juillet 83. Les prisonniers politiques sont progressivement libérés dans les années qui suivent. En mai 1989, sous l'impulsion du général Jaruzelski, les responsables du gouvernement communiste, les représentants de l'Église et les chefs de l'opposition se réunissent pour discuter de la transition politique et économique du pays. À l'issue de ce que l'on appelle la table ronde, la Pologne devient donc un état de droit et élit le 9 décembre 1990 Lech Wałęsa, président de la République. Près de 20 ans plus tard, alors qu'il n'est plus en fonction, ce dernier rend visite au général Jaruzelski, très malade, quelques temps avant sa mort, et lui serre la main en guise de réconciliation. Le chef militaire aux inquiétantes lunettes noires s'éteint le 25 mai 2014 à Varsovie, à l'âge de 90 ans. Le 13 décembre 1981, la Pologne ne répond plus. Avec les voix de François-Xavier Szymczak et Małgorzata Strus. Traduction Aleksandra Wotarczyk. Extrait des films documentaires Robotnicy Osiem Dziesiąt et Les Enfants de Solidarność, réalisé par Raphaël Lewandowski, produit par Cuivre. Documentation Radio France, Patricia Miura. Archivina, Emmanuel Luccioni et Ingrid Anne Lecointe. Recherche musicale Antoine Villose. Prise de son, Lucas Finet. Mixage, Pierre Henry. Coordination, Thomas Biasi, assisté d'Élodie Piel. Un podcast de Dominique Prusac réalisé par Laure-Hélène Planchet pour Ils l'ont vécu, à retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France.